Votre invité, Patricia Martin, c'est Philippe Bertrand, notre Philippe Bertrand, oui. Avec ses carnets de campagne. Chaque jour, à partir de 12h30, Philippe Bertrand vient de publier un livre. Ça s'appelle « Manifeste pour demain ». Ça paraît aux éditions Libre et Solidaire, avec une préface de Michel Onfray.
Bonjour Philippe Bertrand.
Bonjour Patricia Martin.
C'est sympa de travailler le week-end pour nous. L'aventure de carnet de campagne, je parle de l'émission, a commencé il y a une douzaine d'années. Est-ce que vous aviez une idée du succès que connaîtrait votre petite entreprise?
Alors si on peut parler de succès, c'est vrai que
il
y a du monde.
Les résultats de Médiamétrie sont là.
Oui, c'est vrai madame. J'imaginais rien du tout parce qu'il n'y avait aucun objectif précis pour être franc. C'est-à-dire... c'était une période un peu transitoire, une phase transitoire entre 12h30 et 12h45, après le fou du roi, je dis, c'est avant le jeu des 1000 euros qui vient de fêter ses 60 ans. Donc pour parler des régions, et je suis pas inter, je suis pas venu à Inter pour parler des régions ou dire que la France est jolie avec ses chemins de randonnée. Du coup, j'ai quand même proposé un programme et un programme qui n'a pas du tout correspondu à la réalité puisque l'avantage de la radio, vous lancez un appel, vous appuyez sur le bouton, chère Patricia, vous avez la réponse automatique. Et après un an d'exercice, première année, donc c'était quand même, on ne savait pas où on allait, hein, vraiment. Je pense qu'on a eu entre 7000 et 8000 courriers électroniques, avec des choses sensationnelles.
Tout autour de l'économie sociale et solidaire?
Entre autres, de ce qui relève d'initiatives locales, dont les valeurs sont le local, l'emploi non délocalisable, le service de proximité, que ce soit en milieu urbain, périurbain, rural ou hyper-rural, puisqu'on parle d'hyper-ruralité maintenant.
Mais on parle vraiment d'une économie, c'est-à-dire que c'est une économie qui fait ses bénéfices.
Alors, qui fait ses bénéfices, à la différence de l'autre économie traditionnelle, elle fait des bénéfices qu'elle garde en réserve, qu'elle partage entre salariés ou sociétaires, par exemple, d'une coopérative, mais elle reste à échelle humaine, c'est-à-dire gouvernance démocratique, et on n'est pas dans un esprit lucratif. C'est-à-dire, on ne travaille pas pour enchérir un capital ou satisfaire des actionnaires. Là, ce sont les acteurs eux-mêmes, ceux qui agissent et qui en tirent directement les bénéfices.
Mais sans représentation syndicale ou patronale.
Hélas. C'est bien le souci. Je me souviens, François Chirac, une discussion avec lui, je lui avais dit, mais pourquoi dans les négociations syndicales et patronales, on parle jamais du système coopératif, qui est un modèle très vertueux, un homme, une voix, prise de participation, décision collégiale, etc. Il m'a dit, mais parce que les gens de l'ESS ne savent pas avancer, et les coopérateurs ne savent pas avancer et faire valoir leur modèle, ce qui est pas faux.
Et pourtant, ils ont une visibilité, même si c'est pas ça qu'ils recherchent.
Pas très bonne visibilité.
Pas très bonne. Donc il faut le rendre... grâce à vous, ils en ont une quand
même.
Oui,
ils en ont une, mais il faut la limiter, il faut la respecter telle qu'elle est. C'est-à-dire que depuis qu'elle émerge, qu'elle semble apporter des solutions à tous les maux problèmes de société, du logement, de la mobilité, du travail, je dis pas emploi,
oui, parce que ça
travail,
touche tous les domaines.
Tous les domaines.
Même la culture, la santé. C'est dire.
Ah oui. Par exemple, l'économie sociale et solidaire, j'ai noté pour pas vous dire de bêtises, Patricia, l'économie sociale et solidaire, c'est 2/3 du secteur privé sanitaire et social, entre autres les hôpitaux non lucratifs, parce que ça existe. 1/3 des activités financières et d'assurance. Vous savez, les grandes mutuelles d'assurance qui sont à l'origine de ce mouvement, de cette économie. C'est 1/4 de l'enseignement, de la culture et de l'éducation aussi en France. Donc c'est pas rien, c'est-à-dire que ça a un véritable poids. Sauf que si on regarde à la loupe, on va trouver des niches, des petits groupes d'intervention, des micro-économies locales. On va essayer de les rassembler, ce qui tente tout le monde.
Mais
et ça
va
donne
pas
plus
marcher.
Rien. Ben non, parce que d'abord, on est tous accaparés par nos activités, on n'a pas nécessairement envie d'apporter une contribution plus large, et puis simplement, moi je leur dis, laissez-les vivre, aidez-les à s'épanouir.
Est-ce qu'il y a des entreprises qui vous ont particulièrement séduit à travers toutes ces années, dans cette belle France, cette douce France, comme l'écrit Michel Onfray dans la préface du livre?
Il y en a tellement. Il y a celles qui pratiquent l'insertion sous différentes formes, mais parfois elles prennent une dimension extraordinaire. Je pense au groupe ID, alors je dis ça parce que je suis un peu chauvin, comme vous savez, Patricia, par rapport à la Bourgogne.
Ah bon, on en semble blague.
Ouais. Le groupe ID est né de deux éducateurs de rue de Dijon, de la banlieue dijonnaise, Chenauve très précisément, qui se sont dit, il faut quand même qu'on donne quelque chose à faire à ces personnes de la rue. C'est pas possible de les laisser dans cet état. Aujourd'hui, c'est 4000 salariés. 4000, vous imaginez, avec une majeure partie de personnes en insertion, certes, contrat de maximum de 2 ans, mais avec des sorties dites positives. Alors, c'est pas toujours un emploi qui est retrouvé, c'est une formation, mais il y a des emplois qui sont créés. Et puis, je tiens à dire, parce que ça, c'est, on l'entend pas assez, une personne qui est suivie en insertion coûte 3 fois moins cher qu'une personne qui est au chômage.
Mmh. Voilà. On parlait de visibilité tout à l'heure, Philippe Bertrand. Est-ce que les chambres régionales, notamment, peuvent avoir joué un rôle dans
normalement, elles devraient, mais pas toutes.
D'abord, ça parce dépend aussi là, des régions.
Oui, mais il y a des cultures. Je vais faire mon frais, je l'imite très mal, hein. Mais il y a une France jacobine, alors qui est plutôt à, on va couper. C'est très schématique. On coupe la carte en deux. L'Est est très jacobin et l'Ouest est beaucoup plus girondin. Mmh. Et on va retrouver par exemple la Bretagne. La Bretagne a une chambre régionale d'économie sociale et solidaire, mais par pays a aussi un pôle d'économie sociale et solidaire qui lui fait vraiment l'interface entre les financeurs, les collectivités et puis ceux qui s'active et crée des emplois.
C'est vraiment l'avenir, cette économie-là. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté, malgré tout, la société ne va pas très bien, il n'y a pas un côté un peu de l'État qui se défausse et c'est le côté débrouillez-vous, à chacun sa solution?
Non. Non, quand une coopérative, enfin le mouvement coopératif est né, si on prend les premières coopératives au XIIe siècle, c'est pas nouveau. Ouais. Et c'est pas une réaction à la crise. C'est-à-dire que ça existait bel et bien avant la crise. Sauf qu'aujourd'hui, comme on trouve aucune solution, faut le dire honnêtement, aucune solution, quel que soit le type de politique menée en France, on a des solutions, on va dire parcellaires, qui sont effectivement très localisées, mais qui apportent plein de réponses. La difficulté, c'est de faire ressortir de ça une sorte de cahier méthodologique qui ferait faire remonter en haut. Mais en haut, ils l'entendent aussi, hein. C'est pas, il s'agit pas de mettre pot de terre contre pot de fer. Mais sauf que ça, c'est pas assez marquant, l'impact n'est pas assez fort pour qu'il y ait médiatisation, il y ait rendez-vous politique et consensus politique national autour de ça.
Et qu'est-ce que ça inspire aux philosophes que vous êtes, puisque vous êtes de formation philosophique?
Ouais, moi je les ai oubliés, mes cahiers. Ça inspire que l'homme est au début du grand cercle des opérations de construction de société et il doit en être le bénéficiaire. Et c'est un cercle absolument vertueux. On part de l'homme et on revient à l'homme. Enfin, générique, hein, avec un H majuscule.
Vous prenez les femmes avec.
Absolument.
Merci Philippe Bertrand. Rendez-vous à l'antenne lundi, Philippe, à partir de 12h30. Et puis je rappelle donc le titre de votre livre. Ça s'appelle Manifeste pour demain et ça paraît aux éditions Libre et Solidaire.